de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Bouillon de Chartreuse, consacrée cette fois-ci à la promotion de la lecture en milieu rural. Parce que, en 2019, l'Association des maires ruraux de France a continué de promouvoir le livre et la lecture en milieu rural avec l'opération Lecture commune. Tous les villages ruraux sont ainsi invités à se saisir de cette occasion pour organiser une animation en lien avec la lecture et ainsi offrir à leur population un moment culturel et convivial. À Miribel-les-Échelles, comme chaque année, l'association Lire et faire lire a répondu présente ce vendredi 14 juin, avec bien sûr le soutien de Radio Couleur Chartreuse. Lire et faire lire, c'est au niveau national 20 000 bénévoles de plus de 50 ans, dont la très belle mission est de développer l'imaginaire des enfants grâce à la lecture. Voici les sons recueillis par Radio Couleur Chartreuse lors de cet événement transgénérationnel. Écoutez bien et laissez-vous contaminer par l'enthousiasme de Jean-François Mollard. Alors, pour introduire tout ça, là, on a 5 enfants de quel âge ?
5 enfants de 5 à 6 ans.
D'accord. Vous êtes très mignons en tout cas. Vous êtes habitués à parler au micro ? Non ? Ben, je vais vous le tendre, comme ça sera bien enregistré et vous passerez à la radio. D'accord ?
Alors, il nous manque un enfant. Mmh. Donc, on va essayer de pallier à son texte.
Il était une fois un homme qui avait une fille, une femme qui avait deux filles.
Et Cendrillon doit faire tout, laver la vaisselle, repasser les habits, nettoyer les habits. Et ses sœurs avaient un lit tout fait et des habits tout beaux.
Un jour, le prince invita toutes ses filles de son royaume. Et les deux sœurs se préparent. Ils mettent leurs beaux chapeaux, leurs belles robes et même Cendrillon, ils les aident à les coiffer.
Cendrillon, elle regarde ses sœurs partir au bal. Et Cendrillon, elle pleure. Et la marraine, elle entend Cendrillon de pleurer.
Alors, la marraine dit à Cendrillon d'aller chercher une citrouille. Elle donne un coup de baguette magique dessus et ça se transforme en carrosse. Elle dit à Cendrillon d'aller chercher 6 lézards. Elle donne un coup de baguette magique dessus et ça se transforme en serviteur. Elle demande à Cendrillon d'aller chercher 6 souris. Et ça se on donne un coup de baguette magique dessus et ça se transforme en cheval. Elle dit à Cendrillon d'aller chercher un rat. Et elle donne un coup de baguette magique dessus. Ça se transforme en coucher.
Un dia, ça vais aller comme ça avec mes majabis. D'un coup de baguette magique, ça se transforme en jolie robe brillant, pailletée. À tous, sa marraine lui dit « Attention, il faut rentrer avant minuit. »
Cendrillon, le prince aide Cendrillon à descendre de son carrosse. Il danse, il va devant ses sœurs, il lui donne des oranges et des citrons. Mais les sœurs la reconnaissent pas.
Et Cendrillon doit partir. Elle dit au revoir. Et elle part tranquillement.
Cendrillon, quand elle arrive chez elle, tout redevient comme avant. Ses sœurs, elles reviennent du bal et elle dit à Cendrillon, si t'étais venue au bal, eh ben tu voyais cette aussi belle princesse qu'il y avait au bal. Cendrillon, elle fait un petit sourire.
Le lendemain, le prince organise un nouveau bal. Et ses deux filles, ses deux sœurs, sont habillées en robe. Un va au bal. Et Cendrillon lui dit, appelle sa marraine pour lui dire, est-ce que je pourrais retourner au bal? Oui, sa marraine lui dit. Attention, il faut devenir avant minuit.
Le prince et Cendrillon, il danse. Et Cendrillon, elle entend minuit, elle court, elle perd une pantoufle de verre.
Et le prince la ramasse. Et le prince essaie à toutes les princesses du royaume à faire entrer la pantoufle de verre dedans.
Ses sœurs n'arrivent pas à rentrer son pied. Cendrillon dit, moi aussi je peux essayer. Alors, Cendrillon essaye et elle arrive à rentrer son pied.
Elle sort sa deuxième pantoufle de verre et ses sœurs disent, c'est toi qui étais venue au bal. Si la marraine lui transforme sa robe.
Cendrillon va au château. Et le prince et Cendrillon, ils se marient.
Je vais vous lire le conte « Les musiciens de Brême ». Brême est une ville de l'Allemagne du Nord, non loin de la mer du Nord. Et si vous allez visiter cette ville, vous verrez les statues des fameux musiciens de Brême. Il était une fois un âne qui, devenu vieux et inutile, se faisait maltraiter par son maître. Il décida de partir et, ayant appris que la fanfare de Brême cherchait des musiciens, il se dit que quelqu'un comme lui, qui savait si bien braire, aurait une chance. Chemin faisant, il rencontra un vieux chien. Et lui dit, viens avec moi et si tu sais bien aboyer, tu trouveras aussi une place dans la fanfare. Un chat errant qui depuis bien longtemps n'attrapait plus de souris, se joignit ensuite à eux. Et le trio continua son chemin vers la ville. Passant près d'une ferme, ils virent un vieux coq qui lançait ses cocoricots vers le ciel. « Comme tu chantes bien, mais pourquoi es-tu si joyeux ?»« Joyeux, moi ?» répondit le coq. « On veut me mettre à la casserole. Alors, je m'offre encore une fois le plaisir de chanter. » « Viens avec nous, » dit l'âne, avec une voix comme la tienne. « Tu deviendras célèbre à Brême. » La route était longue jusqu'à la ville. Et la nuit venue, les animaux se retrouvèrent dans une inquiétante forêt. Ils aperçurent soudain une lumière dans le lointain. C'était une maisonnette perdue au milieu des bois. Ils s'en approchèrent prudemment. L'âne appuya ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre.
Le chien, puis le chat et le coq curieux montèrent sur les autres pour voir ce qui se passait à l'intérieur.
Autour d'une table, une bande de malfaiteurs célébrait leur dernier vol. L'âne et ses amis, qui étaient affamés, s'agitèrent tellement qu'ils brisèrent la fenêtre et cassèrent la lampe. La pièce, plongée dans l'obscurité, résonna alors du terrible braiement de l'âne, ainsi que des aboiements du chien et des miaulements du chat. Le coq se joignit au concert et lança un cri perçant. Les brigands terrorisés prirent la fuite en hurlant « Le diable ! Le diable !» C'est ainsi que les quatre amis purent manger les restes du repas des brigands. Mais plus tard, alors qu'ils s'apprêtaient à dormir, un des bandits eut le courage de revenir pour voir ce qui s'était passé. Après avoir ouvert la porte, il se dirigea en tremblant vers la cheminée, un pistolet en main. Prenant les yeux brillants du chat pour deux tisons, il y plongea une allumette. Furieux, le chat lui sauta au visage. Le voleur tomba alors sur le chien qui lui planta ses dents pointues dans le mollet. Au même moment, l'âne lui décocha une terrible ruade qu'il expédia hors de la maison, tandis que le coq lançait son cocorico. Fuyons ! Fuyons ! Une sorcière m'a griffé au visage.
Un démon m'a mordu la jambe et un monstre...
Horrible.
M'a battu comme un bâton.
Avec un énorme bâton, les brigands s'enfuirent à toutes jambes.
Et l'âne, le chien, le chat et le coq devinrent ainsi maîtres des lieux. Ayant ensuite découvert le trésor des bandits, ils eurent toujours de quoi manger et vécurent longtemps heureux ensemble.
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheval blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à voir, à traîner dans les bars, en mitouflé dans son cafard.
C'est un petit bonhomme, petit, petit, petit. Sa tête est une pomme, son nez est un radis. Ses yeux sont des groseilles, sa bouche est un bonbon. Et il a pour oreille deux tranches de melon. Sa jambe est une banane, son autre jambe aussi. À la main, canne en sucre de Gandhi.
Il a une longue barbe
et un
petit chapeau.
Une serre de grand manteau. C'est un petit bonhomme, petit, petit, petit. Bravo les enfants!
Nurse Lugton was asleep. She had given one great snore. She had dropped her head, thrust her spectacles up her forehead, and there she sat by the fender with her finger sticking up and a thimble on it, and her needle full of cotton hanging down. She was snoring, snoring, and on her knees, covering the whole of her apron, was a large piece of figured blue stuff.
Mrs. Lugton dormait. Elle avait émis un gros ronflement. Elle avait laissé tomber sa tête sur sa poitrine et envoyé ses lunettes voler sur son front. Elle était assise à côté du garde-cendre, son doigt dressé, coiffé d'un dé à coudre, une pleine aiguillée de coton cascadant de sa main. Elle ronflait et ronflait. Une grande étoffe à motifs bleus étalée sur son tablier.
The animals with which it was covered did not move till Nurse Lugton snored for the fifth time. One, two, three, four, five. Ah, the old woman was at last asleep. The antelope nodded to the zebra. The giraffe bit through the leaf on the treetop. All the animals began to toss and prance.
Les animaux dont elle était couverte attendirent que s'élève son cinquième ronflement avant d'esquisser le moindre mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, la vieille dame dormait. L'antilope fit signe au zèbre. La girafe planta les dents dans la plus haute feuille de l'arbre. Et tous les animaux commencèrent à gigoter et à sautiller.
For the pattern on the blue stuff was made of troops of wild beasts, and below them was a lake and a bridge and a town with round roofs and little men and women looking out of the windows and riding over the bridge on horseback.
Car l'étoffe bleue était décorée d'animaux sauvages, groupés ici et là près d'un lac, d'un pont et d'une ville aux toits arrondis, peuplés de petits hommes et de petites femmes postés à leurs fenêtres ou traversant le pont à cheval.
But directly the old nurse snored for the fifth time, the blue stuff turned to blue air. The trees waved and you could hear the water on the lake breaking and see the people moving over the bridge and waving their hands out of the windows.
Au cinquième ronflement de la vieille gouvernante, le bleu de l'étoffe se mua en air bleuté. Et les arbres se mirent à tanguer. Bientôt, on put entendre le murmure du lac et voir les gens avancer sur le pont ou faire coucou de la main depuis leurs fenêtres.
The animals now began to move. First went the elephant and the zebra, next the giraffe and the tiger, the ostrich, the mandrill, 12 marmots and a pack of mongoose followed. The penguins and the pelicans waddled and waded, often pecking at each other alongside.
Alors ce fut au tour des animaux de s'animer. L'éléphant et le zèbre d'abord, puis la girafe et le tigre, l'autruche, le mandrill, 12 marmottes et une bande de mangoustes. Des pingouins et des pélicans se dandinaient à leur suite en échangeant maints coups de bec.
And soon all were gathered on the edge of the lake. Some stooping down, others throwing their heads up. Really, it was a beautiful sight.
Bientôt, ils s'installèrent sur la rive. Certains perchés vers l'eau, d'autres la tête renversée vers le ciel. Quel beau spectacle c'était!
The elephants drank, and the giraffes snipped off the trees on the highest tulip trees, and the people who crossed the bridges threw bananas at them and tossed pineapples up into the air. And beautiful golden rolls stuffed with quinces and rose leaves, for the monkeys loved them.
Les éléphants buvaient. Les girafes arrachaient les feuilles des plus grands tulipiers. Et les gens qui traversaient les ponts leur jetaient des bananes, lançaient des ananas et des petits pains dorés fourrés aux coins et aux feuilles de rose, dont les singes raffolaient.
Nobody harmed the lovely beasts. Many pitied them. For it was well known that even the smallest monkey was enchanted. For a great ogress had them in her toils, the people knew, and the great ogress was called Lugton.
Personne ne fit de mal aux beaux animaux. Beaucoup les plaignaient, car nul n'ignorait que tous, même le plus petit des singes, étaient victimes d'un sortilège. Chacun savait qu'une puissante ogresse les retenait dans ses filets. Une puissante ogresse du nom de Lugton.
Suddenly, old nurse Lugton twitched the curtains all in crinkles, for a big blue bottle was buzzing round the lamp and woke her. Up she sat and stuck her needle in.
Soudain, la vieille Mrs. Lugton tira sur le rideau, qui ne fut plus que pli et creux. Une grosse mouche bleue qui vrombissait autour de la lampe l'avait réveillée. Elle se redressa et planta son aiguille dans son ouvrage.
The animals flashed back in a second. The air became blue stuff.
Les animaux reprirent aussitôt leur place. L'air redevint de l'étoffe bleue.
and the curtain lay quite still on her knee. Nurse Lugton took up her needle and went on sewing the drawing-room curtains.
Le rideau se figea sur le genou de Mrs. Lugton, qui reprit son aiguille et se remit à coudre le rideau du salon.
Alors Monique, elle va vous faire
le petit moustique.
Il était une fois un petit moustique qui vivait avec sa maman. Ils étaient heureux tout ensemble. Le papa était parti en voyage. Un jour, le petit moustique dit à sa maman, « S'il te plaît, maman, je veux aller voir les hommes. »« Oh, on n'y va pas. Ils sont méchants, ils ne nous aiment pas. »« Oh, tu crois, maman ?»«
Oui,
c'est sûr. » Le lendemain, le petit moustique redit à sa maman, « Maman, je veux aller voir les hommes. » Mais je te dis, n'y va pas, ils sont cruels, ils sont méchants, ils ne nous aiment pas. Mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Et si, tu dois me croire. Le troisième jour, le petit moustique dit à sa maman, je pars voir les hommes. Oh, la maman est toute ennuyée, elle est triste, elle pleure, son petit moustique est parti voir les hommes. Mais ils sont méchants, ils sont cruels, je ne verrai plus. Alors, elle attend. Le deuxième jour, toujours pas de petit moustique. Il n'est pas de retour. Alors elle gémit, elle pleure, elle se dit « je ne le verrai plus ». Mais le troisième jour, le petit moustique arrive. « Oh, mais tu es de retour ?»« Mais oui, maman !»« Mais comment ça s'est passé ?»« Mais maman, c'est merveilleux !»« Comment merveilleux ?»« On a cessé de m'applaudir !»
Alors moi, je vais aller à la pêche avec qui ? Avec Jules. Hein ? Et Jules, il est pas... Moi, je suis pas prêt. Et Jules, il est prêt. Jules, il voit une petite cacahuète. Il ouvre la cacahuète, il se met dedans. Hein ? Il y a une poule qui passe, et hop ! Elle avale la cacahuète. Alors dans la poule, il y a cacahuète et il y a Jules. La poule, elle s'en va, là-bas. Il y a un renard qui passe. Le renard, il mange la poule. Le renard, il s'en va plus loin, à la forêt. Oh !
Un loup. Le loup, hop ! Il mange la poule. Et le renard.
Après, le loup, il s'en va. Il a un gros ventre. Il s'assoit au bord de l'eau, hein ? Où il y a, on va devoir aller à la pêche. Et là, il s'assoit au bord de l'eau. Il y a un poisson-chat. Et le poisson-chat, hop ! Il avale le loup. Le papa, il arrive, le papa de Jules, il arrive avec son... Hop ! À la canne à pêche, il n'y en a point. Toc ! Il n'y en a pas non plus. Oh ! Là, ça a mordu ! Ah, y a... Il tire ! Et qu'est-ce qu'il y a ? Il lui dit au poisson, mais t'as bien un gros ventre. Il ouvre le ventre, il ouvre la gueule du poisson. Et hop ! Il y a le loup.
Il ouvre la gueule du loup.
Hop ! Il y a le renard. Il ouvre la gueule du renard. Il y a la poule. Il ouvre la bec de la poule. Il y a la cacahuète. La cacahuète, elle ouvre tout doucement. Et qui c'est qu'à l'intérieur de la cacahuète ? Il y a Jules. Et il dit, papa, je t'ai bien eu. Alors là, on a un étudiant mirbelin qui est allé 6 mois ou 8 mois en Suède. Il m'avait promis d'apprendre le suédois pour lire un conte. Le conte, il n'a pas eu le temps de le traduire. Il va vous dire un conte en français. Mirbelin.
Merci Jean-François. Alors, c'est un conte qui est très ancien puisqu'il était raconté aux petits-enfants il y a peut-être 150 ans à Miribel. Alors, vous voyez, c'est pas aujourd'hui qu'on le raconte. Pour la première fois, il était déjà très 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 ancien. 150 ans, c'est très vieux. Alors, c'est l'histoire d'un seigneur de Miribel qui habitait dans son grand château, là-haut sur la colline. Vous y êtes déjà allé ? Non ? Ah ben, il faut y aller. C'est bien. Il habitait là-haut et, bon, il avait un beau château, mais malheureusement, il avait beaucoup fait la guerre, donc il avait perdu presque tout son argent. il n'avait plus d'or. Mais il a rencontré une jolie jeune fille qui voulait épouser. Sauf que n'ayant plus d'argent, le père de la jeune fille n'a jamais voulu que sa fille épouse le seigneur de Miribel. Bon, le père dit au seigneur de Miribel, « Comme vous avez l'air de vous aimer, je vous laisse un an pour refaire votre fortune. Alors si dans un an, vous avez refait votre fortune et refait tout votre stock d'or, je vous laisse épouser ma fille. » Oh, le seigneur de Miribel accepte la proposition du père de la jeune fille. Mais il se demande « Comment vais-je faire pour trouver autant d'argent en seulement un an ?» Alors le seigneur de Miribel a essayé de trouver de l'argent un peu partout. Il a essayé d'emprunter au banquier, à ses amis. Mais comme il avait perdu tout son argent en seulement quelques années, personne ne voulait lui prêter. Alors, l'échéance arrivant à son terme, le seigneur de Miribel se dit « Mais il n'y a que le diable qui pourrait m'aider. » Et là, un écran de fumée apparaît et un homme habillé de rouge avec des sabots de chevaux apparaît. Cet homme, c'était le diable. Alors le diable dit au seigneur de Miribel « Que me veux-tu ? Tu m'as appelé ?» Le seigneur lui répond « Oui, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, si je n'ai pas d'or pour épouser cette jeune fille, rien ne se passera et alors nous ne vivrons jamais heureux. » Le diable lui dit « Malheureux, tout l'or du monde, je le fabrique moi-même et je peux te le donner. Seulement, je le ferai à une condition. Si je te donne l'or, tu me donneras ton âme. » Le seigneur de Miribel lui dit « D'accord, marché conclu, je prends le risque, demain reviens à la même heure. Et tu me donneras l'or et je te donnerai mon âme, mais seulement à une condition. Il faut qu'en une heure tu remplisses ma botte. Si en une heure tu n'as pas réussi à remplir ma botte de tout ton or, je garderai l'or et je garderai mon âme. » Alors le lendemain, à la même heure, il était à peu près minuit, le diable revient avec plusieurs de ses diablotins, avec les sacs d'or sur les épaules, et commence à vider l'or dans la botte du Seigneur. Alors il remplit les bottes d'or. Il remplit, il remplit, il remplit. Mais au bout d'une heure, la botte était toujours loin d'être pleine. Pourquoi, à votre avis ? Parce que le Seigneur de Miribel était malin. Il avait fait percer un trou sous la botte, et il avait fait vider toutes les pièces de son château en dessous. Alors tout l'or est tombé dans le château, et le diable, eh ben, il ne savait pas ce qui se passait. Alors au bout d'une heure, le seigneur de Miribel lui a dit « Hein, voyez-vous, vous n'avez pas réussi à remplir ma botte. » Et là, le diable, un peu confus, il était bien obligé de reconnaître qu'il n'avait pas réussi à remplir la botte. Et il s'en alla, en jurant, en tempêtant. Mais le seigneur de Miribel était bien content. Comme ça, il a gardé l'or et il a gardé son âme. Avec tout cet or, il a pu épouser la jeune fille. Et ils vécurent heureux et eurent...
Je suis le roi de la danse, oh la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, Roupidou, je voudrais marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous. Avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux? Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Oh. Oh, yeah.
Bouillon de Chartreuse.
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Là, c'est un conte russe. Conte populaire russe.
La petite poule bigarrée. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme. Et ils avaient une petite poule bigarrée. Un jour, la poule pond un œuf. Un œuf merveilleux, à la coque toute tachetée et toute dure. La poule l'a mis dans un nid en écorce de tremble tressée, dans un coin, sous un banc. Voilà une souris qui passe. Sa longue queue s'accroche à l'œuf qui tombe et se casse. Et le vieil homme de pleurer, la vieille femme de se lamenter, les piliers de rigoler, les poules de volter, la porte cochère de grincer, la poussière tourbillonner, les battants de claquer, la palissade de tomber, le toit de pencher. Alors, la petite poule bigarrée leur dit: ne pleure pas, grand-père. Ne te lamente pas, grand-mère. Vous, les poules, ne voltez pas. Toi, la porte, ne grince pas. Toi, la poussière, ne tourbillonne pas. Palissade, ne tombe pas. Et toi, le toit ne penche pas.
Je vais vous pondre un œuf. Un œuf tout en...
Ah bah tiens, continue.
Je vais vous pondre un œuf, un autre œuf. Un œuf merveilleux à la coque toute tachée et toute dure qui sera cette fois en or pur. Il y a quelqu'un de l'EHPAD, de Salon du Pont, qui va vous lire un petit truc.
La résidence Bellevue.
La résidence Bellevue, après vous pourrez partir.
C'est pas long.
Voilà. Mais les enfants, vous pouvez partir.
Zambin et Lapin, Guadeloupe. Zambin était de grande stature et de large carrure, contrairement à Lapin qui avait un corps efflanqué. Un jour, ils décidèrent de faire équipe et d'aller pêcher ensemble à la rivière. Ils discutèrent du partage des poissons et convint Zambin que les gros reviendraient à Zamba et que Lapin se contenterait des petits, puisque leurs besoins respectifs en nourriture n'étaient pas les mêmes. Zamba emporta un sac et des flèches, et Lapin une canne avec un fil de palmiste, petit palmier dont le bourgeon terminal est comestible. Ce n'est pas juste, protesta-t-il. Demain, j'aurai droit aux gros poissons et toi, tu prendras les petits. Zambra accepta. Ils se retrouvèrent le lendemain au bord de la rivière. Ce jour-là, ils ne prirent que de petits poissons et Lapin n'eut rien. Zamba enfila les poissons sur de solides brins de liane et les porta sur son épaule à l'aide d'un bâton. Il marcha, lourdement chargé comme la veille, son compère trottinant près de lui d'un pas léger. Au premier tournant du chemin, Lapin prit congé et s'enfuit. Zamba continua seul, se réjouissant d'avance des bonnes fritures qu'il allait encore déguster. Durant ce temps, l'autre avait changé d'avis et coupé à la travers champ afin de le devancer. Il s'allongea au premier carrefour où son équipier devait passer et fit le mort. Zamba ne tarda pas à arriver. Un lapin mort, se dit-il, c'est dommage d'en trouver un le jour où j'ai de quoi manger. Et il poursuivit son chemin. Quand Zamba se fut suffisamment éloigné, le mort se releva. Il courut sans se faire voir et s'allongea au carrefour suivant. Encore un lapin mort, pensa Zamba sans y toucher. C'est vraiment dommage de ne pas profiter de cette viande. Le mort alla vite s'allonger à un troisième carrefour et cette fois Zamba s'écria en l'apercevant. Trois lapins le même jour, cela ferait un plat copieux que je pourrais manger demain. Il déposa les poissons près du lapin mort et retourna sur ses pas pour ramasser les deux autres. Dès que Zamba lui eut tourné le dos, Lapin s'empara du produit de la pêche et prit la fuite. Zamba fut surpris et déçu de ne pas retrouver les deux lapins morts. Et ce n'est qu'en revenant au dernier carrefour pour récupérer ses poissons qu'il comprit que son compère l'avait dupé. Il hurla de colère et jura de se venger en le tuant. Lapin envoya son plus jeune fils se cacher dans la case de son équipier afin de l'espionner. Le lapereau rapporta à son père ce qu'il avait entendu et celui-ci comprit qu'il se trouvait en danger. Alors il prit un œuf pourri qu'il cassa dans sa bouche avant de s'aliter. Quand Zamba pénétra dans la case de Lapin, il faillit suffoquer en respirant l'odeur qu'il dégageait. « Que t'arrive-t-il pour te puer de la sorte ?» lui demanda-t-il. « Mes boyaux sont en train de pourrir, » expliqua-t-il en hoquetant. Il fit semblant de vomir et rejeta l'œuf pourri qu'il avait dans la bouche. En le voyant si mal en point, Zamba oublia sa colère et préféra s'en aller. Persuadé que la maladie de Lapin était le châtiment divin pour le vol qu'il avait commis. Voilà, c'est fini.
Merci à Laurette.
Alors, merci à tous, hein, aux dames de, ces dames de l'école, hein, aux études, Marie-Thérèse, voilà, merci aussi, Dominique, hein, les bénévoles de lire et faire lire, les bénévoles de la bibliothèque, et à tous ceux qui ont bien voulu. Merci les enfants, on recommencera l'année prochaine. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le maire adjoint à la culture. Monsieur le maire adjoint à la culture.
Moi j'ai été très heureux de participer à cette opération, mais elle a été menée de main de maître, comme d'habitude, par Jean-François qui a des talents de conteur. Vraiment remarquable. Donc merci à tous d'être venus. Merci aussi à Radio Chartreuse qui a assuré la diffusion directe, hein, c'est ça. Et j'espère que malgré le temps, là, cette manifestation vous a plu. Et je vous dis à l'année prochaine.
Ben merci beaucoup en tant que
et qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi j'ai été très agréablement surpris parce que vous avez vu la diversité des publics.
Oui.
On a les enfants, les gens à la fois des personnes de l'EHPAD, hein, de Miribel et puis le pavillon A de Saint-Laurent-du-Pont. Donc c'est une bonne mélange de générations.
Oui. Hein. Et moi j'ai été surprise à quel point les enfants sont restés sages, ça pas vous été...
Oui, oui, et puis ils ont été très attentifs, les enfants. Hein. On voyait qu'ils buvaient les paroles.
Ah, il y a une petite fille qui voudrait parler. Comment tu t'appelles?
Oriane.
Et qu'est-ce que tu as envie de dire à la radio alors?
Bien.
C'était bien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as préféré?
La princesse.
Ah bah oui. Et tu aimerais être une princesse, toi, plus tard ?
Oui.
Bah, merci beaucoup. J'ai oublié de te demander quel âge tu as. Alors, on me montre une petite main avec 4 doigts, 4 ans.
Maman, j'ai 5 ans.
Toi, tu as 5 ans ? Et comment tu t'appelles ?
Eva.
Et qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui ?
La princesse.
Oh. Est-ce qu'il y a un garçon par là ? Les garçons refusent de parler au micro. Et toi, comment tu t'appelles ?
Gigi.
Et tu as quel âge ?
5 ans.
5 ans. Ah là, j'ai eu la main tout entière.
Moi, eh ben, j'ai bientôt 5 ans.
Ah, j'ai un garçon là, ça t'a plu, toi ? Ah, les garçons, décidément, refusent de parler. Bon, tant pis.
Ah. Et moi, j'ai 4 ans et demi.
Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu as préféré ?
Je sais pas.
Toi ?
Tu sais comme moi, et ben, après la piscine, papi et mamie vont venir chez moi.
Ah bah super.
Et moi j'ai préféré tout. Bah moi j'ai bien plus 5 ans.
Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit, tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi, vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie.
Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais vous venez d'entendre monsieur le maire adjoint Bernard Crozat, les enseignantes Céline et Florence, les animateurs de l'EHPAD de Miribel et de l'EHPAD de Saint-Laurent-du-Pont, ainsi que les bénévoles de Lire et Faire Lire, et bien sûr, quelques petites princesses de maternelle. Remerciements aussi à la commission culture et le service technique de la mairie pour leur aide, et rendez-vous, on l'espère, à l'année prochaine pour une nouvelle édition de lecture commune à Miribel Les Échelles. Et nous, bien sûr, on se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse pour un prochain bouillon de Chartreuse.
Plein de volupté pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.